Bonsoir. Le président de la République s'est exprimé ce lundi devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Dans son discours sur l'état de la nation, Joseph Kabila affirme avoir engagé les pays sur la voie du dialogue politique national et inclusif. Il propose qu'à l'issue de ces dialogues, qu'un processus électoral authentiquement congolais soit mis en place. Quel tir faire du discours du chef de l'État? Nous en parlons avec Patrice Thierry André Kakwata, il est député national et président du mouvement des réformateurs libéraux MRL en sigle, parti de la majorité au pouvoir. Bonsoir Patrick Thierry André Kakwata.
Bonsoir.
John Kolela, il est député national de l'opposition, il est porte-parole du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Bonsoir John Kolela.
Bonsoir Guy.
Et Robert Kabakele, il est coordonnateur national adjoint de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir Robert Kabakele.
Bonsoir, merci.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dans son discours sur l'état de la nation, Joseph Kabila a soutenu l'importance du dialogue et évoqué l'idée de réduire les coûts des élections. Il a aussi noté des avancées dans les sociales, mais aussi des défis qui demeurent. Tout en décourageant la violence, il a appelé au dialogue, expliquant que c'est la voie indiquée pour soulager les climats politiques actuels et électoraux à venir. On écoute le président Joseph Kabila.
Au plan politique, tout en me félicitant de la mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante et en vue de permettre à celle-ci d'accomplir sa mission à la satisfaction de tous, je viens d'engager la nation sur la voie du dialogue politique national inclusif. La mise en place en cours du comité préparatoire est celle prochaine de la facilitation internationale. Permettront à brève échéance le démarrage effectif du dialogue, avec pour objectif de trouver des solutions consensuelles aux questions majeures qui minent le processus électoral, ouvrant ainsi la voie à des élections crédibles et apaisées. Une fois de plus, j'encourage les Congolaises et Congolais à tirer avantage de notre tradition séculaire du dialogue comme mode de règlement des divergences politiques et sociales. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes. J'en appelle une fois de plus au sens élevé des responsabilités de chacun et de tous afin qu'au sortir du dialogue national, nous soyons plus unis qu'avant dans la mise en œuvre d'un processus électoral authentiquement congolais. L'option à lever sur les modalités de vote prévues à l'article 47 de la loi électorale, à savoir soit le vote par bulletin à papier, soit le vote électronique, pourrait contribuer à réduire substantiellement le coût des opérations électorales.
Patrick Thierry André Kakwata, je rappelle que vous êtes député national et président du mouvement des réformateurs libéraux, MRL en sigle, parti de la majorité au pouvoir. Le chef de l'État a parlé devant les congrès au moment où les parlementaires de l'opposition boycottent les plénières. Quelle était l'ambiance qui a régné ce matin dans la salle des congrès?
Il faudrait d'abord préciser, ce n'est pas tous les parlementaires de l'opposition qui boycottent, c'est une frange.
Certains parlementaires.
Certains. Donc, il ne faudrait pas dire que c'est tous
les parlementaires. La majorité des parlementaires.
Non, ce n'est pas la majorité, mais il faudrait aussi, quand il faut dire la majorité, il faudrait d'abord compter combien ils étaient pas là. Donc, voilà. Au moins, l'opposition y était.
Et l'ambiance dans la salle.
Et l'ambiance dans la salle, tout le monde était assoiffé et voulait bien entendre le numéro 1 de Congolais, qu'est-ce qu'il allait nous dire sur ce qu'est de l'état de la nation. Et voilà qu'il nous a dévoilé son discours. Et ce qu'il a pu retenir, c'est qu'il a engagé le pays à ce jour sur la voie du dialogue national inclusif, de sorte que nous puissions aplanir nos divergences. C'est quelque chose qui est à saluer et c'est très important.
Et parce qu'ils avaient soif d'écouter les chefs de l'État, vous pensez qu'ils ont été satisfaits à la fin de ce discours?
Vous devez savoir qu'il faut toujours être optimiste et voir le verre à moitié rempli et non pas le voir le verre à moitié vide. Et pour ma part, tout le monde était satisfait et ce discours est potable.
Au sujet des élections, le chef de l'État dit a envie de permettre à la CENI d'accomplir son travail à la satisfaction de tous. J'engage la nation sur la voie du dialogue politique national et inclusif. Honorable, le chef de l'État semble conditionner le travail de la CENI au dialogue politique. Cela veut dire que la CENI ne pourra pas faire convenablement son travail aussi longtemps que le dialogue n'aura pas lieu.
Non, il ne le conditionne pas, mais tout simplement, il cherche à démontrer à ceux-là qui ne savent pas ou ceux-là qui doutent encore que, un, dans un premier temps, le dénominateur commun, nous sommes politiques. Si même il y a une constitution, c'est parce que les politiques se sont mis. Et face aux enjeux supérieurs de la population et la bonne marche, parce qu'il a dit en tant que garant de la nation, et face aux enjeux supérieurs de la population, la politique prime. Et il faudrait que nous, politiciens, nous puissions nous mettre et trouver un consensus, parce que dernièrement, quand la CENI a eu à promulguer un calendrier, certains des politiciens ont refusé ces calendriers. Alors nous ne voulons pas être dans ce chemin cyclique, à tout moment, un calendrier qui vient et on le refuse. Alors autant mieux que nous puissions nous trouver autour d'une table, et c'est ce qu'il a dit, que le politique se retrouve par un dialogue inclusif national, de sorte que nous puissions maintenant dégager un consensus, que la CENI ne fera qu'appliquer, et tout un chacun va s'engager à cela.
Alors, il ne conditionne pas, mais comment expliquez-vous le fait qu'il lie les deux choses? Parce qu'il dit, pour que la CENI fasse convenablement son travail, j'engage les pays sur la voie du dialogue.
Oui, parce que je viens de vous le dire, que de mémoire, si votre mémoire peut vous rappeler, il n'y a pas longtemps, cette année, la CENI a eu promulgué un calendrier que le politique a refusé et qui voulait que ce soit un calendrier consensuel. Alors aujourd'hui, il dit encore à la CENI, patientez que nous, les politiques, parce que vous allez faire sortir un calendrier maintenant qui sera encore refusé. Alors il faudrait que nous, les politiques, qu'on se mette et consensuellement qu'on vous donne et que vous puissiez maintenant travailler. La CENI n'est que l'organe d'accompagnement de la démocratie. Mais il faudrait savoir qu'il y a une crise de confiance entre politiques. Et il faudrait que les politiques se retrouvent, que même le chef de l'État a dit, à l'issue de ce dialogue, que nous puissions aplanir nos divergences et que nous soyons encore unis plus qu'avant, ou unis pas comme on était désunis à ce jour. Alors il faudrait comprendre, c'est pour ça qu'il dit, CENI, calmez-vous, attendez d'abord que nous les politiques, nous puissions nous concerter consensuellement et nous en sortirons unis et on vous fera confiance. Parce qu'à ce jour, je soulève bien, il y a crise de confiance.
Et donc l'action de la CENI est fonction de la volonté des hommes politiques.
Bien sûr que la volonté des hommes politiques, parce que je le dis, c'est le politique qui est le dénominateur commun, et ce pays est géré d'abord dans un premier temps par le politique.
Il a souhaité qu'à l'issue de ces forums, que nous soyons, c'est ce qu'il dit, que nous soyons plus unis à mettre en place un processus électoral authentiquement congolais. Qu'est-ce que vous comprenez par processus électoral authentiquement congolais?
Pourquoi toujours aller calquer ou copier ce qui est extérieur et que vous ne pouvez pas aussi créer ce qui est à vous? Je crois que quand on a eu Sun City à son temps, il faudrait toujours se référer au passé pour essayer de mettre les aiguilles telles qu'il se faut et cap vers l'avenir. Quand il y a eu Sun City, la situation de la réunification de notre pays suite à la belligérance qu'on avait, nous avons eu à mettre un système authentiquement congolais, un président et quatre vice-présidents, parce que ça ne s'est jamais fait au monde. Et c'était le Congo qui était le premier à le faire. Donc c'était authentiquement congolais. Alors à ce jour, face à la situation que nous avons, la réalité que nous avons, l'enrôlement de nouveaux majeurs, l'enrôlement de certains réfugiés, de certains, il y a eu des décès et tout. Et d'ailleurs, j'ai même eu à suivre l'UDPS qui dit que le fichier électoral qui se trouve à la CENI est corrompu, si je peux utiliser les termes. Alors, face à tout cela, il faudrait que nous puissions se mettre et dégager, et de sorte que nous puissions mettre maintenant un calendrier authentiquement congolais, sans pour autant calquer la démocratie des autres, mais que nous aussi, nous sommes dans notre propre démocratie, mais en respectant le peuple congolais, le patron de tout le monde, le souverain primaire.
Il dit qu'il ne permettra pas que les sacrifices consentis au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité soient compromis par ceux qui, des mauvaises foi, choisissent de rester dans leur posture négativiste, refusant les dialogues au profit du complot contre la République. Et, honorable, il y a des experts qui considèrent ces propos du chef de l'État comme étant des menaces formelles que le chef de l'État profère à l'endroit de tous ceux-là qui refusent de participer au dialogue.
Le chef de l'État ne menace pas. Tout simplement, il interpelle. parce qu'il le dit très bien et il a interpellé tout un chacun, même celui qui reste encore dans son camp, de faire pas, de venir, et qu'il y ait des concessions. Alors ne prenez pas le ton ou ne prenez pas, parce que c'est un chef, il doit parler sur un ton, il n'a pas menacé. Le pays n'est pas menacé pour que lui aussi puisse menacer. Et donc s'il doit menacer, il ne menacerait pas le Congolais, il menacera celui qui vient, un étranger, pour mettre s'aimer du trouble dans notre pays.
Alors lorsque il considère ceux-là qui refusent de participer au dialogue comme étant des gens qui complotent contre la République.
Oui, c'est tout à fait normal, je vous dis qu'il vient d'interpeller et il dit, ne complotez pas contre votre propre pays, ayez l'amour de la patrie.
Vous pensez que refuser de participer au dialogue, c'est ça comploter contre le pays?
Parce que le dialogue, il ne faut jamais le refuser. Dieu nous a donné la parole, pourquoi? Ayons l'amour de la patrie, mon frère. Mon frère dit, il faut avoir l'amour de la patrie, et c'est ce que le chef de l'État a interpellé. Le dialogue, on ne le refuse jamais, il faut savoir venir voir, regarder l'autre dans les yeux et lui dire, ça je ne veux pas, c'est ça être honnête, intellectuel, regarder dans les yeux, et que de fuir et de se taire, et aller dire ailleurs, sous mon dos. C'est ce qu'il ne veut pas.
Merci, John Kolela. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition. Vous êtes porte-parole du groupe parlementaire IDPS allié à l'Assemblée nationale. Pourquoi, en dépit du caractère exceptionnel de la plénière d'aujourd'hui, vous avez maintenu votre position, celle qui consiste à boycotter les plénières, vous de l'opposition?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Guimaté. Je vois que nous devrons être responsables parce que chaque fois que vous proférez des mensonges devant la population, vous devrez savoir que vous êtes en train de faire des victimes. Et la première victime de votre propre mensonge, c'est votre propre conscience.
Là, vous faites allusion à qui?
À ceux-là qui mentent à la population que le dialogue, c'est ici. Nous avons refusé de participer à la séance d'aujourd'hui parce que le chef de l'État, qui est le créateur de créatures de la majorité, comme eux-mêmes se sont qualifiés, a pris en otage la démocratie en donnant les injonctions aux députés de torpiller la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en faisant des motions présidentielles sur des motions de défiance pour mettre à mal le contrôle de l'institution Parlement vis-à-vis du gouvernement. Alors, cela, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas continuer à être des moutons de panurge de nos collègues de la majorité qui ne veulent pas qu'on puisse contrôler le gouvernement. Et nous leur disons que le droit de contrôle, c'est un droit constitutionnel, ce n'est pas un cadeau de la majorité. Voilà pourquoi nous avons décidé de saisir la Cour constitutionnelle, de sorte qu'elle nous donne une ligne de conduite qui va nous mettre nous tous d'accord par rapport à la procédure à suivre quant au contrôle du gouvernement. Parce que si aujourd'hui le pays est en train de souffrir, c'est parce que le Parlement ne fait pas de contrôle. Les lois, on en a voté autant, mais nous souffrons de manque de contrôle parce qu'il y a complicité du bureau de la majorité vis-à-vis de leurs poulains qui sont au gouvernement.
Et vous pensez que vous allez obtempérer à l'arrêt de la Cour si celui-ci n'allait pas dans le sens que vous auriez souhaité?
Si la Cour dit le droit, nous allons respecter le droit parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée. En ce moment-là, elle nous trace une voie et la population jugera si la voie c'est celle-là parce que ici tout le monde sera bénéficiaire si le contrôle est libéré parce que c'est le pays qui sera gagnant.
Alors, comment vous analysez le discours du chef de l'État quand il affirme que pour permettre à la CENI d'accomplir ses missions comme il se doit, il vient d'engager la nation dans une voie de dialogue politique national et inclusif?
Je pense que le chef de l'État a manqué tout simplement une occasion peut-être de se taire. Si le chef de l'État devrait parler, il devrait commencer d'abord par présenter ses adieux à la population parce qu'il n'aura pas une autre occasion de se présenter devant le Congrès pour parler de l'état de la nation. Et si longtemps que c'était le dernier discours qu'il devrait faire, il devrait beaucoup plus parler de ce qu'il va devenir au 30 septembre 2016. Et il ne pouvait pas proférer de menaces contre ceux-là qui ne partagent pas son point de vue. Le chef de l'État doit savoir que le dialogue n'est pas une obligation. S'ils ne sont pas d'accord d'aller avec lui au dialogue, il ne peut pas menacer ceux-là qui ne sont pas d'accord avec lui. Parce que ce qu'il a fait, ce sont des menaces et tout le monde a suivi que c'était des menaces.
Il estime que vous de l'opposition qui refusez de participer au dialogue, vous complotez contre la nation, contre la République.
Celui qui complote contre la nation, c'est celui qui cherche à geler la Constitution. C'est de ces camps-là qu'il faut chercher les comploteurs.
Il s'agit de qui?
Il s'agit du camp de la majorité, de ceux-là qui veulent assez que le chef de l'État puisse rester au pouvoir de manière éternelle. Et alors, nous disons que si nous refusons le dialogue, parce que nous, l'UDPS, on n'a pas refusé le dialogue, mais les gens qui sont sceptiques vis-à-vis du dialogue, ce sont les gens qui ne sont pas rassurés par rapport au comportement du chef et de sa majorité. Ils ne rassurent pas. Imaginez-vous le chef de l'État qui a parlé aujourd'hui, il n'a fait aucune allusion à la Constitution. Et la Constitution dont lui a dans sa tête, c'était une Constitution qui a 28 provinces. Donc, il y a un problème à ce point de vue-là, et nous devrons nous interpeller tous en tant que citoyens de ces pays. Nous nous disons qu'on ne peut pas nous proférer des menaces et nous ne sommes pas intimidés parce que nous ne complotons pas contre la République, et le comploteur, c'est celui qui cherche à violer la Constitution, et la population doit se prendre en charge conformément à la Constitution.
Il a sauté un processus électoral authentiquement congolais. Qu'est-ce que vous attendez par là?
Le processus ne sera pas mis en place après dialogue parce que le processus a commencé depuis la première seconde qui a suivi la prestation du serment du chef de l'État. La Constitution oblige à ce qu'après 5 ans, il y ait élection et chaque
Donc le processus est en cours.
Le processus est déjà en cours. Ce n'est pas un processus qui sera mis, mis sur chemin à l'issue du dialogue. Le processus est déjà là. Et le chef est obligé, je dis bien obligé, de le respecter. Il ne peut pas nous créer un autre processus à lui qu'il est en train de penser. Le processus est décidé par le peuple congolais dans son ensemble. Et c'est par souveraineté que le peuple avait décidé, à travers une constitution qui s'oppose à tout le monde. Et le chef n'est pas là pour s'adresser au devant de la population, parce que le chef, avec de la terreur et de l'intimidation, il est là au service du peuple. Donc c'est notre serviteur. Un bon président n'est pas un chef, c'est un serviteur. Et il devrait s'adresser devant la population avec beaucoup plus de courtoisie et de respect. Et nous disons que le dialogue tel qu'il l'a convoqué selon lui, ce n'est qu'un dialogue qu'il doit faire comme il a fait avec les concertations. Sinon, pourquoi aller au dialogue lorsqu'on a déjà passé aux concertations et qu'il veut faire de cette manière? Moi, je pense que ça sera une peine perdue. S'il avait besoin de dialogue, et si M. Kakwata vient de dire que non, il faut nécessairement dialoguer parce que Dieu nous a donné la parole, il faut se dire des choses. C'est nous qui sommes les premiers à avoir demandé ce dialogue. Nous avions fait des marches dans ce pays, votre radio a couvert ces marches et vous en avez parlé. En ce temps-là, quand son chef refusait, il était qui? Parce que nous, aujourd'hui, on nous juge de tous les maux. Ils étaient en train de comploter contre la République. Ce n'est pas parce que nous arrivons à la fin du mandat du chef qu'il faut nécessairement aller au dialogue pour se trouver les béquilles. Le dialogue, dans tous les pays du monde, on organise les élections. On ne passe pas au dialogue. Ici, en République démocratique du Congo, on en a fait 2 fois. On n'est pas passé au dialogue.
Alors, comment vous, en tant qu'homme politique, comment vous analysez ou vous concevez, n'est-ce pas, le travail de la CENI, hein? Vous avez suivi l'honorable Kakwata, qui estime que l'action de la CENI est fonction de la volonté de vous, politique.
La CENI doit faire son travail. Pour enrôler les gens, ce n'est pas parce que nous allons nous réunir qu'on va trouver le moyen dans cette réunion-là pour que la CENI enrôle les gens. L'essentiel ici pour nous, c'est qu'on libère les moyens parce que l'institution assemblée chaque année vote un budget. Il y a la part réservée à la CENI. Lorsque le gouvernement se permet de ne pas donner à la CENI les moyens nécessaires pour son travail, mais se permet de réaliser 191 projets qui ne sont pas dans le budget, c'était une manière délibérée de dilapider le peu de moyens que nous avons pour enfin justifier la situation difficile de réaliser les élections. Donc ici, aujourd'hui,
donc, monsieur, c'est à dessein.
À dessein, c'est une volonté, une politique bien établie à temps, et le chef de l'État et ses membres de la majorité, ils nous ont conduits devant une situation de difficulté pour justifier ces glissements.
Merci.
Et personne ne tolérera, parce que l'article 64, c'est un devoir. Un devoir veut dire ce qui doit être fait obligatoirement. Et celui qui ne fait pas le devoir est poursuivable devant la justice.
Merci Robert Kabakela. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national adjoint de la nouvelle société civile du Congo. Comment la société civile a reçu les messages du chef de l'État devant les Congrès?
Merci beaucoup, cher Alain. Mais avant de répondre à votre question, je vais...
C'est Guy Maté.
Excusez-moi, Guy Maté. Les auditeurs de la Radio Capi et moi-même sur ce plateau, nous venons de constater, prendre acte du fait que nous sommes pris en otage finalement par l'homme politique congolais. Donc la population est prise en otage, la misère de la population congolaise, c'est entre les mains des politiques. Donc ils s'arrangent, n'est-ce pas, pour nous prendre en otage, pour libérer la République. Il faut que la population se saisisse pour effectivement réclamer son droit, pour effectivement faire voir aux politiques que c'est la population qui est souveraine, d'après la Constitution, dans son article 5. Vous venez d'entendre, on nous dit ici, autour de cette table, que la CENI ne pourra fonctionner que lorsque nous, politiques, on aura décidé. Et donc, vous comprenez que la démocratie est prise en otage.
Et donc vous, à la société civile, vous pensez que l'impulsion ne doit pas venir des politiques, mais plutôt de la population de la base.
La population doit se prendre en charge pour effectivement empêcher aux politiques et aux politiciens de considérer que la République leur appartient.
Alors, face à cette logique selon laquelle l'action de la CENI est fonction de la volonté de l'homme.
C'est grave. C'est grave parce que les élections, ce n'est pas l'apanage de seuls politiciens. Les élections, c'est un mécanisme par lequel la population participe, n'est-ce pas, à la gestion de la chose publique à travers ses élus. Et donc, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas dire que ça ne peut fonctionner que lorsqu'ils vont décider. Donc, nous sommes pris en otage et la population, je crois qu'elle a suivi et elle doit prendre des dispositions conséquentes. La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. La démocratie, c'est un ensemble de valeurs qu'il faut respecter. C'est un ensemble de mécanismes, c'est un ensemble de dispositions prises par une nation, par un État, par une population pour, n'est-ce pas, conduire leur pays, leur politique, leur économie, leur social. Et donc, pour nous, ces valeurs, ces mécanismes sont, n'est-ce pas, consacrés dans un document que nous appelons la Constitution. Et la Constitution a des valeurs qu'il faut respecter. La Constitution nous dit 5 ans, le chef de l'État est élu pour 5 ans au suffrage universel, renouvelable une fois. C'est des valeurs qu'il faut respecter et faire respecter. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État a raté l'occasion d'apaiser les esprits un peu troublés. A raté l'occasion d'apaiser ceux qui, finalement, ne savent pas est-ce que la condition sera respectée.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il devait dire qu'il devait apaiser les esprits?
Parce que beaucoup ont même composé des chansons. Kabila Tondi en a noté. Beaucoup ont même initié des pétitions dans cette ville pour, n'est-ce pas, demander à la population de prolonger les mandats du chef de l'État. Et donc, le président de la République est au courant de cela. Il est informé. Il sait cela. Pour apaiser les esprits, pour dire aux uns et aux autres que voilà, j'ai prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution, je dis aujourd'hui, à travers ceux qui vous représentent, donc le Parlement, que la Constitution ne sera pas violée. Que je n'accepterai pas que personne ne puisse toucher à la Constitution. Voilà ce à quoi beaucoup de Congolais attendaient aujourd'hui. Vous êtes journaliste, faites circuler les micro-baladaires. Je crois que c'est ce qui est en train d'être dit à travers la ville, à travers la République. Et donc, tous les restes que le président a dit, c'est ce que nous avons toujours entendu depuis qu'il est élu, le bilan de la nation, et aussi quand le chef dit le social a été amélioré. En fait, je ne sais pas, c'est les informations qu'il a à travers ses services. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a certains enfants qui ne savent pas aller à l'école. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a nos frères, nos compatriotes qui ont été chassés des Brazzaville, du Congo-Brazzaville, qui continuent à passer les nuits à la balle étoile sur l'avenue Kabambar. Vous savez qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui ont été chassés de l'Angola ne savent pas où passer la nuit. Vous savez qu'aujourd'hui, ça continue à crépiter dans l'est du pays. Il y a des familles entières qui continuent à errer ça et là à travers les forêts. Voilà les sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous rassurer que les sociales a atteint cette la croissance économique. Mais enfin, la stabilité du cadre macroéconomique. Vous savez, on ne va pas entrer dans les détails, quand on parle de la croissance, ça doit se vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une maman dans le Tchela, j'étais dernièrement dans le Congo.
Et le chef de l'État, pour ne pas vous couper, il a relevé cela, il a dit que cette croissance doit désormais impacter sur le développement.
Vous savez, j'étais dernièrement dans le Congo central, une maman, pendant qu'on tenait une conférence, qui nous a dit, mais j'ai appris qu'à Kinshasa, il y a un nouveau poisson qui s'appelle la croissance économique. Et ce poisson, il est gros, ce poisson, tout le monde peut l'avoir facilement, ce poisson se trouve dans les marais de tout Congolais. Est-ce comment ce poisson viendra chez nous ici, quel jour? Voilà comment est-ce que les gens perçoivent la croissance. Voilà. Donc, nous disons aujourd'hui, le chef de l'État a raté cette occasion par rapport, n'est-ce pas,
notamment à la Constitution.
À la Constitution a raté l'occasion.
Mais je sais que je me rappelle que le chef d'État avait déjà dit devant la presse qu'il n'avait jamais demandé à sa famille politique de réviser la Constitution. Est-ce qu'il fallait qu'il répète ça encore aujourd'hui?
Écoutez, vous savez, qui ne dit mon constat, parce que quand les gens continuent à chanter chaque jour, ça nous a même rappelé le temps de Diallo, quand on compose même des chansons pour le chef d'État, pour l'amener à violer la Constitution, et que le président chef ne dit rien, on dit qui ne dit mon constat.
Merci, honorable Kakwata. Il y a une question, une réflexion, n'est-ce pas, qui est faite pour vous. Elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Moi, j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. En analysant le discours du chef de l'État d'aujourd'hui, peut-on maintenant dire que le dialogue envisagé n'est contesté jusque-là par une frange de la classe politique, voire des forces vives congolaises, a remplacé la constitution du pays, laquelle pourtant régit tout le monde? Apparemment, le chef de l'État n'est pas conscient que tout le problème que connaît actuellement le processus électoral et que l'on veut aller débattre dans ce dialogue émane de la mauvaise volonté politique du gouvernement qui n'est pas prêt pour les élections et qui veut à tout prix trouver le glissement, ce qui risquerait de plonger le pays dans le chaos. Le président a parlé de tout sauf de ce qui intéresse ces derniers temps plus d'un Congolais. Il s'agit du respect de la Constitution et son avenir politique, oubliant qu'il est au soir de son mandat.
Oui, honorable Kakwata.
Oui, merci beaucoup. Avant que je ne réponde à la réflexion, je voulais un peu rebondir à la déclaration de collègue John Kolela, qui dit que le chef de l'État aujourd'hui devait dire un adieu parce qu'il ne prononcera plus un autre discours sur l'état de la nation. Je crois que c'est faux.
Ah, vous pensez qu'après celui-ci, il a encore l'occasion de prononcer un autre discours?
Oui. Quand ça? La Constitution est claire que le chef de l'État s'adresse une fois l'an au Congrès. L'année passée, le discours sur l'état de la nation était au mois d'octobre, après les concertations. Donc ce n'est pas que décembre. Le chef de l'État peut même encore faire un autre discours au mois de mars. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de tromper la population. Donc le chef de l'État a encore l'occasion de faire un autre discours sur l'état de la nation. Je vais, par rapport à la réflexion de mon ami de Bukavu que je salue, le respect de la Constitution est là. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame parce que nous sommes en train de tromper le peuple congolais. Quand on parle de dialogue, on n'a pas dit qu'on a suspendu la Constitution. La Constitution demeure. On vous demande de venir à table. J'ai dit tout à l'heure, au lieu de parler derrière le dos ou derrière les rideaux, autant mieux venir à table et savoir regarder l'autre en face dans les yeux et savoir lui dire non. Ce n'est pas dit que quand vous venez au dialogue, ce qui est là, donc tout est oui. Non! Vous avez l'indépendance. C'est là que vous devez même démontrer votre maturité et votre indépendance. Qui sache que je sais dire non ou oui.
Alors, il y a l'honorable John Kolela qui dit que l'on ne vient pas, que l'opposition ne vient pas au dialogue parce que vous n'arrivez pas à rassurer cette opposition.
Mais non, ce n'est pas ça, parce que l'honorable Kolela souffle le chaud et le froid. Il vous dit tout à l'heure que l'UDPS n'est pas contre le dialogue, et puis par après il vous dit on ne vient pas au dialogue. Il souffle le chaud et le froid. Il n'a qu'à démontrer qu'est-ce qu'il est au juste. Il faudrait qu'on se le dise. Ils sont au dialogue ou pas? Et ne prenez pas l'autre place, et puis par après vous soufflez le chaud et le froid, et vous, dans cela, on ne sait plus vous cerner. Alors, il faudrait se dire que le dialogue est appelé par le chef de l'État. Il a juste mis, parce que même quand on appelle quelqu'un pour parler, il y a toujours un sujet. Mais ce sujet, si vous trouvez que ce sujet fâche, venez autour d'une table, mais ayez ce courage de dire non. Aujourd'hui, ils ont décidé de quitter l'Assemblée nationale. Ils ont pris leur courage, que nous saluons. Alors pourquoi aussi au dialogue ils ne peuvent pas venir avec ce courage-là de dire ici non, nous, quand vous demandez un processus électoral authentiquement congolais, voilà comment est-ce que nous vous le disons, ça doit aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et nous respectons les délais constitutionnels. Personne ne dira non. Mais pourquoi aller crier et refuser de venir autour d'une table? On nous a donné la parole, pourquoi?
Les choses ont été faites à dessein pour, n'est-ce pas, pousser les gens à aller au dialogue. C'est pourquoi on a refusé, n'est-ce pas, de financer les différentes opérations électorales.
Je vous dirai
ça
aujourd'hui,
l'honorable
oui, je vous dirai aujourd'hui que moi, aujourd'hui, je dis tout ceci, si ça arrive, c'est l'opposition. Tout ceci, si ça arrive, c'est l'opposition. Prenez le chef de l'État.
C'est l'opposition qui devait décaisser les fonds.
Non, je veux vous dire pourquoi.
Le Parlement avait alloué à la CENI.
Monsieur Guy Maté, j'en arrive. Pourquoi je dis que c'est l'opposition? Il y a eu les concertations l'année passée. On les a appelées. ils ont refusé de venir aux concertations. Donc, en refusant, c'est que vous n'avez rien arrangé. Deux, la CENI proclame ou publie un calendrier que eux refusent encore, qui fait que ça dit au gouvernement de ne pas décaisser, parce que vous allez décaisser pour quelque chose que les autres refusent. Aujourd'hui, moi, j'ai souligné un point, j'ai dit ceci. Il y a crise de confiance politique. Aujourd'hui, c'est comme si on a un problème vis-à-vis de la personne du chef de l'État ou de la personne de M. Joseph Kabila. C'est le problème qui est là. Mais si demain, la majorité présentait quelqu'un d'autre et que cette personne arrivait à gagner les élections, est-ce que vont-ils s'incliner? Le chef de l'État a bien dit, en 2006, le sang a coulé. En 2011, le sang a coulé. Il ne veut pas voir quitter ce pays ou son fauteuil en laissant encore un sang couler, mais il veut voir une démocratie authentiquement congolaise où nous savons nous incliner. Merci. Est-ce que sont-ils capables aujourd'hui de respecter?
John Koleda, il y a une question qui vous est adressée, hein, il vient de Kinshasa.
Alain Bolodjoa s'appelle depuis Kinshasa. Il faudrait tout d'abord préciser que cette manière de synthétiser les discours du chef de l'État tend à les sortir du contexte. Toutefois, il est de bon aloi de reconnaître que le système électoral actuel est loin d'être le meilleur et surtout adapté. Il est notoirement connu que le dysfonctionnement de la CENI est dû essentiellement à la complexité des opérations que cette institution est chargée de faire. Certes, un choix collectif, mais qui ne nous empêche pas d'en proposer. Les élections, bien qu'importantes, coûtent près de 1,2 milliard de dollars. Si nous pouvons faire preuve du génie pour pallier aux contraintes budgétaires et même temporelles, nous devons explorer toute option éventuelle.
Oui, honorable John Koleda.
Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à l'auditeur, je dirais que les discours sur l'état de la nation, le chef de l'État vient faire l'état de la nation pour l'année. Il ne vient pas en mars. En mars, les trois mois, ce n'est pas
là, vous répondez à Nourab
Kakwat. S'il vient, c'est ça.
Il a été fait en octobre. Donc, en octobre, on peut faire encore un autre.
Mes chers amis, en octobre, nous sommes en pleine élection parce que déjà, trois mois avant la fin du mandat du chef de l'État, il faut qu'on soit en pleine élection. Il n'en aura pas le temps. Donc, c'est un mensonge. Les concertations. Les résolutions de concertation, aujourd'hui, où en sommes-nous? Parce que les gens sont allés aux concertations, il y a autant de résolutions qui sont sorties. Si le chef de l'État et son gouvernement ne sont pas en mesure de respecter la Constitution, ils ne sont pas en mesure de respecter les résolutions des concertations, pensez-vous qu'il sera maintenant cette fois-ci, par la magie, capable de respecter les résolutions du dialogue? Voilà pourquoi nous ne soufflons pas le chaud et le froid. L'UDPS est restée constante depuis la demande initiale. Nous avons exigé le dialogue en conformité avec la résolution d'Addis Abeba. Et c'est ce que nous sommes en train de réclamer jusqu'à aujourd'hui. Lorsque aujourd'hui le chef de l'État nous dit que ça ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, c'est une manière de nous défier. Et nous allons tirer les conséquences. Nous disons que il est vrai que le système est compliqué et complexe, mais c'est le même système que nous avions utilisé. Là, je réponds à l'auditeur. Nous l'avions utilisé en 2006, nous l'avions utilisé en 2011. Aujourd'hui, s'il faut revoir, faire preuve de génie tel que je viens de le dire, pour diminuer les coûts.
En explorant toutes les options.
Nous disons ceci, ce n'est pas aujourd'hui, à moins d'une année des élections, qu'il faut commencer ces génies-là. Si vous aviez besoin de ces génies, il fallait les chercher avant. Ici, aujourd'hui, on nous dit que refuser le dialogue, c'est faire preuve d'immaturité. Nous, lorsque nous demandions le dialogue, c'est le chef de l'État qui faisait preuve d'immaturité ou c'est la majorité? Parce que nous aussi, à un temps, c'est nous qui réclamions des dialogues, ce sont les autres qui refusaient. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes devant une situation de fait accompli, il y a des priorités. Il est vrai que toutes les élections sont nécessaires, mais toutes les élections ne sont pas prioritaires parce qu'il y a une élection qui a une date précise dans la Constitution qu'on ne peut pas violer. Vis-à-vis de la CENI qui a donné un calendrier, en son temps, alors que l'État était encore là, nous avons fait une contre-proposition, c'était à prendre ou à laisser. La CENI a refusé. Et on s'est tu, nous sommes dit qu'alors, comme la CENI, c'est elle l'organe technique qui a tous les paramètres en main, qu'elle nous conduise comme elle le veut, mais néanmoins qu'on ne viole pas la Constitution. Nous disons qu'à ce jour, étant donné que l'élection présidentielle est prioritaire par rapport au temps qui nous reste, nous devrons nous concentrer sur l'élection présidentielle et la législative nationale.
Et voilà donc, notre proposition. L'opposition n'est pas la base du blocage dans lequel nous sommes maintenant.
C'est faux. L'opposition n'a que la parole pour parler. L'opposition n'a ni l'armée pour sécuriser les élections, n'a ni la CENI, ni n'importe quoi. Et chaque institution doit assumer ses responsabilités. Le gouvernement doit nous chercher l'argent qu'ils ont dépensé dans les 191 projets-là pour dilapider, pour remettre ça et que l'élection puisse avoir lieu. Nous disons que nous sommes responsables de rien. C'est le pouvoir qui gouverne, c'est le pouvoir qui nous organise les élections. Et il ne faut pas prendre vos erreurs, vos fautes, les jeter sur les dos des autres pour dire qu'il faut maintenant négocier ou dialoguer.
Vous êtes député national UDPS, quelle est la position actuelle de l'UDPS? Est-ce que l'UDPS est toujours prête à aller participer au dialogue ou ne va plus partir?
La position officielle de l'UDPS reste la même. Nous avions exigé le dialogue en conformité avec la résolution d'Addis Abeba. L'UDPS avait donné l'ultimatum, mais jusque-là, les officiels du parti n'ont pas encore parlé parce que l'ultimatum a déjà expiré. Je sais que dans les jours à venir, les officiels eux-mêmes vont se prononcer sur cette question, mais si dialogue il y aura, nous ne pouvons céder nullement par rapport aux exigences de l'accord d'Addis Abeba.
Alors, dans ce contexte, il y a aussi des députés UDPS qui sont ciblés, n'est-ce pas, s'il faut utiliser ce terme-là. Ciblés par la PGR. Ils sont accusés d'avoir en fait défaut en écriture, tout ça.
Merci beaucoup pour la question. Si le PGR veut nous intimider, parce que c'est ça la stratégie, vous avez compris, c'est un rapport avec le discours du chef de l'État qui veut nous intimider, mais je dis au PGR et à ceux-là qui l'ont envoyé qu'il y en a d'autres qui sont passés avec lui, avant lui, avec la même stratégie, nous n'avons pas capitulé. Nous disons que ce n'est pas la justice qui nous fait perdre, mais c'est l'injustice de la justice que nous sommes en train de combattre. Nous disons que nos amis, il n'y a pas faux et usage de faux, mais nous sommes 59 députés qui avions signé la motion contre le bureau de l'Assemblée nationale. Sur 59, notamment, le bureau a appelé un individu sur 59 pour lui demander pourquoi son nom figurait sur la liste. Vous comprenez déjà l'objectif et le but pour lequel un bureau qui est mis en accusation chercherait à appeler un dessinateur pour avoir quoi ? Et le monsieur sur qui le bureau va tomber, par la magie de la politique de la majorité, c'est le monsieur dont la signature a été imitée. Ça, c'est faux et archi-faux. S'il y a les gens à chercher, le PGR devrait demander qu'on lève les humilités des membres du bureau de l'Assemblée.
Merci. Monsieur Kabakela, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Mouenaditou.
Bernard Kazadi, depuis Mouenaditou. C'est un discours prononcé ces jours, bien sûr, mais n'ayant pas un nouveau élément que tout le peuple congolais attendait du tout. En tout cas, le peuple congolais est déçu encore une fois de plus, car son excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila, n'a pas montré sa bonne volonté de laisser la RDC sur la voie démocratique, passant par les élections libres, transparentes et démocratiques. Il a fallu qu'il nous dise ces jours, je remercie tout le peuple congolais qui m'a donné confiance durant tout mon séjour à la tête de la RDC. Et nous sommes déçus. En écoutant ses speeches, c'est un non-événement.
Là, il a semblé vous rejoindre.
C'est sans commentaire parce que je vous dis tantôt que la population attendait autre chose que le discours que le chef de l'État a prononcé aujourd'hui devant les parlements réunis en congrès.
Alors, au sujet des modalités de scrutin, vous avez suivi le chef de l'État, il dit qu'il faut, lever des options, soit le vote à bulletin à papier, soit le vote électronique.
Je pense que le moment n'est pas indiqué.
En fait, l'objectif, c'est de
réduire les coûts. C'est une très bonne initiative, mais nous disons que pour nous, le moment n'est pas indiqué parce que la préparation des élections commence le lendemain de la prestation de ceux qui entrent en fonction. En fait, quand le Parlement est installé aujourd'hui, les jours qui suivent, on commence à préparer les prochaines échéances. Et donc, je pense que nous saluons cette initiative, chef de l'État, mais nous pensons qu'il faut laisser passer ces processus. Nous pourrons envisager cela, n'est-ce pas, à l'échéance qui va commencer. Donc, au-delà de 2016, on pourra déjà, avec les nouveaux élus, avec les nouveaux chefs de l'État qui sera élu, on pourra déjà, avec les nouveaux parlements, les nouveaux gouvernements, on pourra envisager effectivement à aller dans ce sens-là pour réduire les coûts en rapport avec l'organisation des élections dans notre pays.
Alors, on a senti une certaine fermeté lorsque le chef de l'État a parlé de ceux qui ne veulent pas aller au dialogue.
Moi, je pense que nous sommes dans la démocratie. Dans la démocratie, nous ne sommes pas dans une situation de où on doit dire tout quand les chefs tous ont dit amen. Je crois que dans ces pays, les gens se sont battus. À l'intérieur, il y a des gens qui se sont battus pour instaurer la démocratie, parce qu'il y a une dictature qui a régné pendant 32 ans. Et ailleurs, il y a des compatriotes qui ont pris et ont pris les armes pour chasser la dictature et instaurer la démocratie dans ces pays. Mais la démocratie, c'est des valeurs, c'est un ensemble de valeurs qu'il faut respecter. Ça veut dire, lorsque je ne suis pas d'accord avec vous, cela ne signifie pas que je suis contre la démocratie. C'est mon point de vue. C'est ma façon de m'exprimer. Vous n'avez qu'à comprendre. Il ne faut pas nous menacer. Et voilà. Il ne faut pas menacer ceux qui refusent d'aller à ces dialogues. C'est leur opinion, parce qu'ils ont leurs raisons. Est-ce qu'ils ont pris les armes? Non. Ils ont dit pour nous, nous ne trouvons pas l'opportunité de nous asseoir pour discuter. Voici ce que nous voulons comme chemin. Ils n'ont pas pris les armes. Et donc,
il fallait respecter leur droit de refuser de participer à ces dialogues.
D'aller dialoguer. Donc c'est leur droit le plus légitime.
Le chef d'État a souhaité avoir un processus, mettre en place un processus électoral authentiquement congolais. Comment cela pourrait se faire quand on sait que ces pays, la RDC, dépend à beaucoup de points de vue des partenaires extérieurs?
C'est là, c'est le contraste. Est-ce que 1 plus 4, entre guillemets, ça a semblé être un système authentiquement congolais? Je ne pense pas, parce que nous avons été accompagnés du début jusqu'à l'organisation des élections en 2006 par nos partenaires extérieurs. Et donc, un système électoral authentiquement congolais, je crois qu'il faut qu'on en dévoile et puis qu'on ait les détails de ces systèmes pour que peut-être qu'on puisse émettre un avis.
Honorable Kakota, quels pourraient être les mérites, n'est-ce pas, de ces discours du chef de l'État?
Merci beaucoup. Je vais réagir avant de vous répondre. Je m'étonne que la société civile veut rester la main tendue vis-à-vis de l'extérieur. Je m'étonne. Parce qu'on a été accompagné par 1 plus 4 par la communauté internationale et que nous devons rester sur cela. Le chef de l'État a très bien dit. Authentiquement congolais dans le sens que nous puissions être aussi un pays indépendant et souverain. Nous devons vivre de notre souveraineté, de notre indépendance et ne pas toujours attendre l'accompagnement. C'est pour ça qu'il a dit que nous n'aurons ni de l'extérieur, de l'Orient ni de l'Occident. Ça c'est un. De deux, par rapport au discours sur l'état de la nation, même si nous sommes, comme il l'a dit tout à l'heure le collègue John Colella, me traitant de mensonge, mais même si nous sommes au mois d'octobre et que nous sommes en période d'élection, le chef de l'État, le mandat court. Ça prendra fin que le jour de la prestation de serment de nouveau président. Donc, il est en droit de prononcer son discours sous l'état de la nation.
De trois, le dialogue. Le mérite de ce discours.
Le mérite de ce discours, c'est qu'on a interpellé tout un chacun et on a demandé aux Congolais de venir autour d'une table. Fuir le dialogue, c'est l'immaturité politique. Et je demande à tous les politiciens, venons autour d'une table, sachons se regarder dans les yeux et sachons dire non là où il faut dire non et oui là où il faut dire oui pour l'intérêt de peuple congolais qui est notre patron. Nous parlons, c'est parce que ce peuple-là s'est élevé à 5 heures du matin pour nous donner le pouvoir. Et si tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est l'opposition qui vient de nous faire arriver à ce point, alors nous demandons à l'opposition de fléchir et de venir.
Honorable John Colella, vous allez aussi conclure. Le discours du chef de l'État, le discours qu'il a prononcé aujourd'hui devant le Congrès, ne va pas impacter le processus électoral en RDC?
Je ne crois pas aussi longtemps que le peuple congolais est déjà mature. Tout ce que nous demandons, c'est à la majorité de fléchir et de respecter la Constitution. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas au chef de l'État.
De fléchir et de venir.
S'il vous plaît, honorable. La politesse, s'il vous plaît, exige qu'on s'éteigne lorsque c'est quelqu'un d'autre qui parle. Nous disons que la majorité doit fléchir à la volonté de la population qui a voté une constitution et on doit la respecter. Il dit le chef de l'État, nous ne pouvons accepter qu'un individu puisse détruire ce que nous avons construit pendant plusieurs années. Et ce que nous avons construit, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le respect du loi. Si le chef de l'État ne respecte pas la loi, il est esclave de ceux-là qui nous dictent leur propre volonté. Et alors nous disons ici, la seule voie pour protéger ce que nous avons construit, c'est de respecter la loi, point barre. Il n'y a pas d'autre formule.
Et jusqu'où vous comptez aller dans votre logique, parce que demain vous clôturez la session, et si à la prochaine session vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore obtenu gain de cause, est-ce que vous allez continuer à maintenir la même position, c'est-à-dire boycotter les plénières?
Oui, nous continuerons parce que selon la loi, la Cour constitutionnelle aura 30 jours tout au plus pour nous répondre. Donc nous espérons qu'avant la fin des 30 jours, nous aurons la réponse.
Merci, Monsieur Kabakela. L'impact des discours de l'État sur le processus électoral. Ça sera sur votre conclusion.
D'abord, honorable
Kakwata
vient de dire que la société civile veut rester avec la main tendue vers l'extérieur. Il n'en est pas question. Au contraire, nous nous battons pour qu'on soit réellement indépendant et souverain. Parce que, regardez, nous disons être souverain et indépendant. Nous avons les palais de la justice qui est construit par l'État l'argent de l'étranger. Nous avons un budget qui est financé à 60%, c'est pas 80% par l'étranger. Et donc, on doit commencer d'abord
donc, on
par...
Donc, à certains points de vue de ses partenaires extérieurs.
On doit d'abord commencer à laisser cela
merci,
avant de faire de choses.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui est à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais. Alain Rong, Kéline Couté et Mary Franklin Luchaka sous la supervision de Julien Niamoyni à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.